Bonjour et bienvenue sur AmCamGram, le podcast qui met en lumière les métiers de l'account management. Je m'appelle Darina Senagi et pour cette saison 3, attachez vos ceintures. Je vous embarque dans ma DeLorean pour un retour vers le futur. En parallèle des nouveaux invités, je redonne le micro aux AmCamGrammeurs pour qu'ils me racontent l'évolution de leur métier depuis le passage sur le podcast. Vous êtes bien installés ? Alors c'est parti ! Salut Julie, comment tu vas ?
Salut Darina, ça va très bien et toi ?
Ouais, ça va, je suis très 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 contente de te recevoir sur AmCamGram.
Bah moi je dois te dire que je suis vraiment assez, un peu émue en vrai, de me dire que ça fait que 3 mois que je suis Customer Success chez Lemlist et d'avoir déjà ce genre d'opportunité, c'est trop dingue, je te remercie, je suis très 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 contente d'être là.
Et pour la petite histoire, j'ai quand même un peu hacké notre rendez-vous pour te parler la première fois. Donc, je suis fière d'avoir hacké Lemlist quand même.
Tu peux le mettre dans ta to-do des choses pour lesquelles tu es fière.
Mais c'est vrai parce que donc pour remettre un peu de contexte, Julie, en fin de compte, elle avait écrit un post LinkedIn sur son quotidien et en mettant « je suis dispo si vous voulez qu'on échange ensemble sur le métier de CSM, en gros, voilà mon lien Calendly ». Ah bah hop, moi, je me suis engouffrée dans la faille, j'ai booké 30 minutes et on a échangé ensemble pour faire ce rendez-vous de podcast, donc je suis trop contente.
Grave, aussitôt lu, aussitôt fait.
Efficacité. Du coup, donc toi Julie, pour te présenter, tu as donc démarré, comme tu le disais, un poste chez Lemlist en tant que International Customer Excellence Expert. Et donc Lemlist, bien entendu, je le représente, même si je ne sais pas si c'est nécessaire, mais en effet, Lemlist est bien un outil SaaS qui permet d'envoyer et d'automatiser des campagnes de cross-canal en B2B grâce à l'hyper-personnalisation. Avant de commencer, peux-tu me dire, Julie, quel est ton plat préféré ? C'est pour mes stats perso.
Alors moi, déjà, je suis une fan de nourriture de manière générale. Tu demanderas à mon entourage, mon fil Insta n'est que de photos de nourriture et j'ai toujours des nouvelles recettes toutes les semaines. Je crois que je pourrais faire un nouveau restaurant en habitant Paris, je pourrais faire un nouveau restaurant chaque jour. Mais je suis une grande fan de pâtes. Moi, tu me fais un bon plat de pâtes avec à la arrabbiata, par exemple, avec des bonnes tomates fraîches, assez pimentées parce que j'aime bien quand ça pique, avec une petite burrata posée sur le dessus. Et là, tu m'as convaincue. Simple, mais toujours des bons produits et j'adore.
Ouais, surtout en été, là, je pense une bonne
burrata. Ah ouais, là, je rêve de mes petites pâtes à la arrabbiata en terrasse là.
Ça va arriver, t'inquiète. Eh bien, merci beaucoup. À présent, je te laisse sortir de l'anonymat.
Donc, pour me présenter, donc je suis Julie, j'ai 29 ans. Pour la petite histoire, donc aujourd'hui, on va parler Customer Success, mais il faut savoir que je suis ingénieure chimiste à la base.
Wow.
C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré Guillaume, donc le CEO de Lemlist. Guillaume et moi, on se connaît depuis 2013, puisqu'on a fait la promo de Chimie ParisTech 2015. Et donc, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école. On était tous les deux admis sur titre, donc arrivés en même temps. On a tout de suite ultra accroché. Enfin, donc, on se connaît depuis longtemps. Puis après, on a chacun eu un peu nos parcours de vie, mais on est toujours restés très en contact. Moi, à côté de ça, donc en sortant d'école, j'avais orienté toute mon orientation plutôt sur tout ce qui était production. Et donc, j'avais beaucoup de connaissances en amélioration continue. C'est pour ça que j'ai travaillé 3 ans en industrie pharma chez Novo Nordisk. J'étais responsable de tout ce qui est validation des zones de stockage. Bon, c'est des jargons qui ne sont pas ultra intéressants de rentrer dans le détail. Mais voilà, ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur le terrain, sur la production. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et ensuite, je suis partie chez Bearing Point pour faire du conseil, donc toujours en industrie pharma, mais je voulais avoir une dimension plus large et toucher des domaines un peu plus différents, pas que la prod, mais être un peu plus en amont. Voilà, mais il s'avère que j'avais envie de faire autre chose, je sentais que j'avais envie de quelque chose de plus tech, enfin... Je sais pas si c'était data analyst ou quelque chose plus product owner, mais en tout cas, je sentais que je me sentais plus trop à ma place. Mais entre-temps, j'ai eu l'opportunité de partir au Canada. En fait, il s'avère que chaque année, je postulais pour faire le programme vacances-travail au Canada. Donc, je suis partie, c'était en 2019. Donc, j'ai devais partir presque un an. Et puis, avec le Covid, bah, je suis partie que 6 mois. Donc, je suis revenue en pleine période de Covid, là, en mars-avril 2020. Et puis, bah là, bon, j'ai été confinée, j'ai profité tranquillement de l'été comme on a pu. Et j'ai commencé à rechercher du boulot. Et je savais, donc voilà, que je voulais un secteur en hyper-croissance dans le monde de la tech. Donc, je cherchais que des postes en start-up. Et puis, bah, notre cher Guillaume, qui en janvier de cette année m'a contactée pour me dire qu'il pensait à moi pour un poste de customer success, qu'il savait que j'avais jamais fait, mais qu'il me verrait bien sur ce challenge-là, et que je pourrais apporter mon expertise un peu plus process et optimisation de la manière de travailler. Voilà, du coup, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai fait le parcours de recrutement, j'ai été prise, du coup. Et donc là, bah, ça fait 3 mois. Et puis, bah, Guillaume me charrie tous les jours pour me dire que je n'ai pas encore signé ma période d'essai, qui se signera le 1er juin. Alors, j'espère que le 1er juin, j'aurai une coupe de champagne à la main pour, pour officiellement être faire partie de l'équipe Lemnis. Mais voilà, je suis ultra contente, très 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 heureuse. Je sais pas si ça s'entend à ma voix, mais il m'arrive beaucoup de choses ces derniers temps et je suis très très contente. J'adore ce que je fais, j'adore l'équipe et voilà. Je suis très inspirée.
Oui, ça s'entend en effet. Et on va rentrer dans le vif du sujet, on va en parler. Mais c'est en clair. Tout cas, ouais, je connaissais pas ce pont entre l'industrie pharmaceutique et les startups. Donc je pense que c'est intéressant et comme dit Guillaume, trouver ton aisance en termes de process pour les appliquer au secteur de la tech, c'est une bonne expérimentation. Alors, tout d'abord, je voudrais commencer avec la partie métier. Est-ce que tu peux me décrire la structure business chez Lemlist?
Oui. Alors, sur le point business à proprement parler, bah, je pense un peu comme tous les secteurs de start-up dans la tech, on a forcément le market, le sales, les devs et le customer success. Et du coup, si je peux donner ma vision, puisque du coup, je suis au customer success, donc en tant que customer success expert, c'est vrai que je me sens vraiment au milieu de ces trois piliers qui sont le marketing, le sales et le dev. Et donc, on a énormément d'interactions. Donc, avec le market, donc ils travaillent sur beaucoup de sujets comme le growth, tout ce qui est product market, social media. Mais par exemple, dernièrement, comme customer success, on s'occupe aussi de tout ce qui est pour éviter les churn, c'est-à-dire éviter que les gens s'en aillent de notre plateforme.
Ah, c'est un sujet qu'on connaît bien.
Oui, c'est ça. Du coup, je travaille depuis peu en collaboration avec Anaël pour essayer justement de donner un peu plus d'informations au bon moment à nos utilisateurs sur les nouvelles features, sur ce qu'on va faire. Enfin voilà, leur donner des petits tools. Parce que même si on a une communauté qui est très importante, qu'on a une chaîne YouTube et des choses comme ça, les gens vont pas toujours chercher l'information. Donc on cherche à pousser via Intercom, parce que nous on utilise Intercom en interne pour la discussion de tickets clients. Et ce qu'on cherche justement, c'est plutôt à pousser de l'information via cet outil et leur donner les bonnes infos. Donc ça, c'est la partie avec le marketing que je trouve très, très, très intéressante. Après, forcément, avec les devs, on essaye au maximum de... Aujourd'hui, on a un flux de tickets. Et ce qu'on veut, c'est que ce soit pas juste un ticket traité, un ticket fermé, mais vraiment de se dire de comprendre comment fonctionnent nos utilisateurs et de remonter les points importants. Du coup, depuis peu, on a mis en place un tracking de nos tickets pour les labelliser avec des tags et notamment bah, remonter le plus gros bug de la semaine, voire les deux plus gros bugs, qu'on puisse avoir du coup un extract de tout ce qui est demande de feature request ou des choses comme ça. Donc du coup, avec les devs, on travaille tout le temps. Et puis, on a aussi Daphné qui est notre dev de support 2. Donc nous, on gère les tickets de support 1 et elle, dès qu'on a un problème vraiment plus touchy, plus technique, on lui transfère le ticket et elle nous aide à solutionner les problèmes. Donc voilà, donc c'est vraiment un travail de fond. Et ensuite, la partie sales, qui est ultra importante pour nous parce que customer success, donc on s'occupe de la partie ticket à proprement parler, de gestion du chat, mais on fait aussi tout ce qui est, on fait des onboardings, donc on peut faire des démos de nos clients qui viennent à nous via la plateforme pour nous dire j'aimerais avoir une démo. Donc on peut soit les transférer aux sales si on, on n'a pas le temps, par exemple, mais en général, on prend directement la démo. Mais on fait aussi tout ce qui est upsell pour chercher à aider nos clients à aller vers l'optimisation. Et il y a un truc qu'on fait aussi et que je trouve très, très cool, c'est qu'en fait, chez Lemlist, le but, c'est que peu importe ton poste, tu sois ambassadeur de Lemlist. Donc, tu dois savoir utiliser l'outil, tu dois donner pas que des solutions sur des problèmes techniques, mais aussi sur du contenu, sur de la stratégie. Et donc, on prend aussi beaucoup des calls clients pour leur donner des conseils. Il y a pas longtemps, j'ai eu un client qui est venu vers moi en me disant bah, « Mon taux de clic, je trouve qu'il est pas fou. Est-ce qu'on peut regarder ensemble ?» Et donc, voilà, en fonction de... Soit on le fait en amont, les gens viennent vers nous dès le début en disant « Qu'est-ce que tu penses de ma campagne ?» ou alors un peu plus au fil de leur utilisation de Lemlist en fonction de leurs résultats, et on cherche vraiment à les aider. Je trouve ça trop, trop, trop enrichissant, quoi. Au final, Customer Success, bah, voilà, c'est très, très riche et très, très varié. On a beaucoup d'interactions, donc beaucoup de choses à faire.
Bah, j'entends que c'est hyper complet, en effet. Toi, tu es la seule Customer Success pour l'instant ?
L'équipe en française, on est deux. Et on a aussi une équipe anglophone, mais le but, c'est vraiment qu'on centralise toute notre manière de travailler. Donc, chaque semaine, on a un Customer Success Meeting, tous les vendredis, où on échange tout ensemble sur notre manière de travailler. Et bien sûr, on a Ina, qui est notre Head of Customer Success, qui est en charge de toute l'équipe, donc aussi bien francophone qu'anglophone, pour harmoniser nos manières de travailler et qu'on puisse apprendre les uns des autres et qu'il n'y ait pas deux dimensions totalement différentes.
Donc là, si j'essaye de reprendre en fin de compte tes nombreuses casquettes en tant que CSM chez Lemlist, tu vas intervenir en pré-vente lorsqu'il y a une demande de démo. Donc là, on voit le lien avec l'inbound marketing dont tu parlais tout à l'heure. Ensuite, j'imagine que tu joues un peu le rôle aussi de SDR finalement, de qualifier cette demande, de répondre à leurs questions et de faire la passe décisive aux sales qui, eux, vont donc signer le contrat. Toi, tu reprends la main juste derrière pour onboarder en bonne et due forme le client sur l'outil et faire tout le suivi. Et la rétention du churn, donc on a bien dit, avec cette partie un peu casquette product, puisque tu vas recueillir les feedbacks, essayer de trouver les points communs pour que les développements qui sont opérés répondent à plusieurs clients à la fois.
Ouais, exactement. C'est très, très, c'est très, très bien résumé. Ouais, on a vraiment une... plusieurs casquettes, une dimension très, très, très large. Mais de manière générale, c'est vrai que chez Lemlist, peu importe que ce soit les devs, les sales ou nous, au Customer Success, on a vraiment une dimension très full stack. Donc, on n'a pas de SDR. Enfin, voilà. Le funnel sales, c'est un client qui vient vers nous, ou alors si c'est de l'outbound, c'est nous qui venons vers lui. Mais en tout cas, une première prise de contact. Peu importe qui prend le contact, donc que ce soit le Customer Success ou les sales, en général, ils gèrent tout le deal. Et même si après, nous, au Customer Success, s'il y a une question dans le chat, c'est nous qui allons gérer le client. Mais en soi, le sales reste un peu l'account manager, pour toujours de ce nouveau client. Et il ne passe pas sur une personne qui sera spécifique account management. C'est quand même un peu la personne qui a pris en charge cette personne dès le début, qui sera tout le long son accompagnateur.
Oui, c'est très cohérent.
Même si au final, au fil du temps, il peut être amené à être orienté vers d'autres personnes. Mais voilà, son interlocuteur commun, c'est la première personne avec qui il a pris contact, peu importe son statut au sein de Lemlist.
D'accord, ouais, je ne connaissais pas cette posture, c'est intéressant. Et tu parlais tout à l'heure d'upsell, mais tu parlais aussi de tickets. Donc si je comprends bien, si je lis entre les lignes, tu vas avoir une partie de ton travail plutôt réactive de réponse aux tickets. Et aussi une partie proactive, tu vas contacter régulièrement tes clients ?
Alors pour l'instant, on n'a pas encore un process d'upsell qui est optimisé. C'est ce sur quoi j'essaye de travailler avec Anaëlle justement, d'essayer d'utiliser notre plateforme Intercom qui a quand même beaucoup d'avantages et de propositions de pop-up ou de choses comme ça ou de mail. Et donc ce qu'on aimerait, voilà, c'est d'avoir un accompagnement plus régulier, donc on travaille là-dessus. Mais aujourd'hui, l'upsell, on le conçoit un peu dans le sens où un client vient vers nous sur le chat, nous parle de ses besoins, et donc là, si on se rend compte que petit à petit, LinkedIn, par exemple, ça peut être un de ses besoins, là, on lui présente la possibilité d'upseller vers le niveau supérieur, quitte à même prendre un rendez-vous avec lui en visio pour refaire le point sur ses besoins, où il en est à l'instant T, et pouvoir avancer là-dessus. Donc, je dirais que l'upsell, aujourd'hui,
C'est de l'inbound upsell, en fait.
Voilà, ça. C'est de l'inbound upsell et on aimerait aller vers de la outbound upsell, on va dire ça.
Bien sûr.
C'est un bon résumé, exactement.
Et en parlant d'upsell, quels sont, toi, tes KPI au sein de l'Aimlist?
En termes d'upsell, pour l'instant, on n'a pas non plus des KPI ultra, parce que c'est nouveau pour nous, l'upsell, quand même. Même si on en a toujours fait un petit peu, c'est quand même quelque chose, c'est un nouvel objectif, on va dire. Donc là, pour l'instant, on essaye de se familiariser avec ce que c'est que le sales, de manière générale. Donc, par exemple, Simon, qui est notre business dev expert, il nous aide, Agathe et moi, on fait des fausses démos avec lui et il nous aide à gagner en compétences là-dessus. Donc, pour l'instant, je dirais que sur l'upsell, on n'a pas vraiment des KPI en se disant « il faut que tu aies tant d'upsell » ou des choses comme ça. On n'en a pas. Mais par contre, après, on a des KPI assez classiques de customer success, sur tout ce qui est notre temps de réponse, la customer satisfaction. Ça, c'est quelque chose qu'on suit beaucoup. Et je dois avouer, d'ailleurs, donne-moi ton avis, nous, on a toujours des résultats en France qui sont toujours moins bons que les internationaux. Est-ce que c'est quelque chose que tu as constaté de manière générale, que la satisfaction, on va dire, un 100% en international, nous, vite, c'est un 90, quoi. C'est dur d'avoir un 100%.
Oui, en effet, tu sais très bien qu'en France, on va avoir tendance à mettre de l'énergie si on veut qu'il y ait un changement. Mais si RAS, si tu n'as pas de question, ça veut dire que RAS. Et souvent, nous, ce qu'on faisait et ce qu'on fait aujourd'hui chez Welcome to the Jungle, c'est qu'on doit appeler nos détracteurs, finalement. Parce que c'est un message d'alerte qui nous lance. Hein. On a la chance d'avoir du temps de leur part où ils ont pris le temps même de noter peut-être 2 ou 3 sur 5, enfin, ou sur 10 en l'occurrence. Mais c'est un bon signal de dire, je prends du temps pour répondre à votre questionnaire, donc appelez-moi.
Mmh, j'avoue, c'est une bonne idée.
C'est ça, pour les remercier d'avoir pris du temps, d'avoir répondu à toi NPS, finalement.
Ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Tu vois, par exemple, le NPS, on ne le fait pas encore. Je suis en train de regarder quelles vont être les questions pertinentes à poser à nos utilisateurs, mais aussi, surtout, à qui on pose la question. Parce qu'aujourd'hui, on a la notation classique en fin de ticket, mais vraiment sur la conversation en elle-même. Mais j'aimerais que justement mettre en place le NPS pour que là on ait une vision beaucoup plus produit et pas sur notre réponse. Ouais.
Et justement, sur la partie produit, tu as un KPI d'usage par exemple?
Comme quoi par exemple?
Le taux d'utilisation des fonctionnalités par les clients.
Ah non, on n'a pas ce genre de suivi. Ce qu'on a plutôt, nous, c'est le suivi des gens, parce qu'en fait on a un free trial, donc on a le suivi des gens qui sign up. Mmh. Des gens qui activent, donc c'est-à-dire via leur fonction free trial, qui vont vraiment lancer leur première campagne, et les gens qui vont du coup passer en payant. Donc là, on a ces trois données qu'on suit toutes les semaines et que Guillaume nous envoie toutes les semaines. Ça, c'est d'un point de vue produit, c'est ce qu'on suit. Pour nous, aujourd'hui, j'avoue, on ne suit pas la feature en elle-même, mais on suit le côté, vraiment l'indicateur pour nous, c'est est-ce que tu as lancé ta première campagne.
Oui, hyper clair. Je pense que de toute façon, ça sera peut-être l'étape d'après, quand tu parlais de rétention du churn lié à la non-utilisation potentielle des fonctionnalités, parce que les clients n'ont pas forcément le réflexe d'aller voir les nouveautés sur YouTube ou les messages que vous ou bien le tuto dans Intercom. Mais en tout cas, en effet, peut-être coupler l'envoi des newsletters avec la mise en place d'un health score sur l'usage. Mais bon, pardon, on n'est pas là pour parler des suggestions.
Allez, c'est parti, on va faire un business plan, on va tout préparer.
Okay. Non, j'enchaîne quand même. Sur la partie des clients, est-ce que tu peux nous décrire qui sont tes clients, combien tu en as en portefeuille et quels sont leurs enjeux? Parce que tu parlais tout à l'heure de conseils, finalement.
Mmh. Ouais. Nos gros clients, quand même, c'est quand même des sales. Hein. En général, la plus grosse majorité de nos utilisateurs, c'est quand même des gens qui veulent faire de la prospection. Alors, je pense que c'est le bon moment de le rappeler, c'est que nous, l'objectif de l'Aimlist, c'est de rendre une dimension ultra, ultra, ultra humaine dans la prise de contact. Nous, ce qu'on dit toujours à nos clients, le but, aujourd'hui, là, tout de suite, quand tu ne connais pas une personne, c'est pas de lui vendre quelque chose, même si tu es convaincu qu'elle en a besoin de l'outil, c'est de prendre contact avec elle, de réussir à créer une relation. Même si la personne, elle n'est pas naïve et elle sait que derrière, tu es là pour lui vendre quelque chose. Hein. Surtout si tu arrives sur LinkedIn, c'est pas pour lui vendre. Enfin, on sait que c'est pour vendre quelque chose. Mais tu vois, surtout en plus, on est en période de Covid, on n'a plus trop de liens sociaux, on sort plus trop, on crée moins de relations, on crée moins de discussions avec des gens. Je sais pas, moi, avant, t'allais dans un bar, tu rencontrais quelqu'un, tu discutais avec lui 30 minutes. Voilà, c'était cool, t'avais une nouvelle vision, tu vois, et ça, on en a de moins en moins. Et au final, moi, je trouve vraiment fou avec la mise, c'est que ça te permet de recréer ça d'un point de vue virtuel, en fait. De créer une relation avec quelqu'un, le contacter et de t'intéresser à lui et du coup d'ultra personnaliser ta prise de contact. Et donc ça, bah, c'est toute la valeur ajoutée de l'AMLI sur ce point-là. Donc du coup, voilà, ça c'est la partie sur nos clients, c'est vraiment plus de la prospection. Mais on a aussi des gens qui utilisent notre plateforme pour le recrutement, pour chercher des nouvelles personnes, ouais, pour aller candidater... des secteurs pour du recrutement, des candidats. Moi, par exemple, Guillaume m'avait recommandé d'utiliser l'AMLIST pour faire mes candidatures. Du coup, c'est ce que j'avais fait. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi à décrocher des entretiens parce que sur LinkedIn, c'est tellement... Quand tu vois une offre, si tu la vois pas dans l'heure, 3 heures après, tu as déjà 300 candidatures. Enfin, franchement, tu n'arrives pas à te démarquer. Donc, ouais, on a quand même des profils assez différents. Et on a aussi beaucoup de... Mais ça reste dans le thème de la prospection, mais des agences. Donc, des agences qui tiennent différents comptes et qui travaillent pour cette personne pour leur faire uniquement les premières parties de prospection, un peu comme les SDR, pour chercher la première prise de contact et après orienter le potentiel lead vers leur client.
Ouais, OK. Mmh. Ah oui,
ouais. Ouais, c'est ça.
Et concrètement, si je reprends l'histoire des tickets intercom, c'est quoi les trois plus grosses récurrences en termes de demandes clients?
Les trois plus grosses récurrences, bah en général, c'est des petits... Le premier, c'est purement sur la campagne. Donc les gens, ils vont venir vers nous parce qu'ils ont un problème sur une de leurs campagnes, soit parce qu'ils n'arrivent pas à l'envoyer, soit il y a une variable qui ne fonctionne pas. Donc des choses assez techniques quand même. Après, il y a quelque chose qui revient beaucoup. Les gens, c'est vrai que l'AMLIST, bon, bah, sur l'instant, quand tu le découvres, tu te dis waouh, je vais pouvoir solliciter énormément de personnes, je vais pouvoir automatiser, ça va me faire gagner trop de temps. Mais ce que les gens oublient, c'est que le but de l'AMLIST, c'est de booster ta délivrabilité avec ce qu'on appelle le LAM Warm, qui permet de chauffer ton adresse mail et que du coup, d'être sûr que ton mail tombe pas dans les spams, mais tombe bien dans la boîte de réception. Ça, ok. Il y a le LAM Warm qui le fait, mais ça n'enlève rien au fait que ton activité sur l'AMLIST doit rester humaine. Et donc, nous, ce qu'on recommande, c'est d'envoyer à peu près 150 mails par jour. Mais il y a des clients, eux, ce qu'ils aimeraient, c'est envoyer 200, 300, 400, 500. Du coup, j'ai beaucoup de retours de gens qui se disent « bah moi, j'aimerais envoyer 500 mails, ça ne fonctionne pas ». Du coup, beaucoup de gens se plaignent sur la limite. Et après, le point qui revient... Je dirais, là, c'est un peu plus sur le contenu. Quand les gens viennent à moi, comme je te disais, pour me dire, je suis pas trop contente de ma stat de clic, je comprends pas, pourtant, j'ai fait la même campagne avec une autre cible, ça marchait bien, tu vois. Du coup, les gens, ils ont besoin, comme je te disais, d'expertise, mais pas sur l'outil, mais plus sur la stratégie commerciale. Et donc là, en général, ces clients, on les prend en call. Et voilà. Mais de manière générale... Par jour, je pense que j'ai au moins 4 clients de 15... J'ai au moins une heure, 4 créneaux de 15 minutes pour avoir des clients au téléphone, soit sur des problèmes techniques, soit sur de l'accompagnement stratégie. Voilà. Donc, on traite beaucoup de tickets, à peu près une quarantaine par jour, nouveaux tickets. Donc, chaque ticket amène des conversations. Mais on est sur une moyenne de 40 tickets par jour. Et voilà.
Et tu n'as pas de portefeuille dédié?
Non. C'est en fait... On a une intercom nous amène les tickets, on a une liste de tickets, on fonctionne par oldest, donc le ticket le plus vieux, c'est le ticket le plus vite traité. Et en fait, c'est simple, on s'est posé à un moment, est-ce que en fonction du combien notre client paye, s'il est en sales engagement, donc le plan le plus fort, ou en outreach, est-ce que il mérite d'avoir un support plus important? Donc on s'était dit, est-ce qu'on crée des petites boîtes de priorisation? Et au final, on s'est dit que le but, c'est que si on veut que les gens scrivent, que les gens ne churn pas, que les gens upsell, c'est qu'au final, il faut qu'on accompagne tout le monde de la même manière. Donc au final, on n'a que deux boîtes. On a une boîte française, une boîte anglaise. Les tickets arrivent au compte-gouttes et on les traite au fil de l'eau.
Hyper clair. Merci beaucoup. Julie, super. En tout cas, on a bien compris toute l'étendue de ton métier, donc ça, c'est très chouette. Je voudrais prendre un peu de recul à présent, avoir ton retour d'expérience, même si je sais que ça a la lumière de quelques mois seulement. Je sais que chez Lemlist, c'est un feu d'artifice, ouais, vite. Ça passe beaucoup de choses. Et on va essayer de faire ça dans un temps réduit parce que je vois le chrono.
Moi aussi, je viens de regarder.
Peux-tu commencer par me raconter une anecdote gratinée ?
Je pense que les anecdotes gratinées, c'est le plaisir en fait des retours clients, parce que bien sûr, je te disais, on a un taux de 90%.
Alors attends, gratiné, c'est un truc un peu insolite quand même.
On a des gens, non, il y a des gens, il y a beaucoup de clients qui viennent vers nous. Enfin, la dernière fois, j'ai un client qui est venu vers moi et genre, il, en fin de ticket, il te dit, en gros, est-ce que tu veux te marier avec moi, quoi.
Ah,
du coup,
oui.
Tu sais, c'est un peu genre, bah c'est gentil, mais en même temps, je suis gênée, quoi. Donc voilà, allez, c'est ce genre d'anecdotes qui font plaisir, mais en même temps, bah peut-être pas quand même.
upsell et puis on en reparle, tu sais.
Oui. La meuf qu'on abuse, tu sais, offre-moi une bague et on en rediscutera.
Exactement. Oh, c'est mignon. Bon, bah, les clients sont aussi barrés que l'équipe, j'ai l'impression.
C'est ça. Je crois qu'on communique tellement sur notre philosophie et nos valeurs d'entreprise qu'au final, les clients qui sont... Parce qu'en fait, 90%, c'est de l'inbound, même peut-être plus le pourcentage. Donc au final, les gens qui viennent à nous, c'est des gens qui ont regardé notre contenu, donc soit la chaîne de Guillaume, soit la communauté, soit la chaîne Lemlist, enfin, le blog. Du coup, au final, c'est des gens qui, à un moment ou un autre, ont adhéré à ce qu'on disait. Et au final, bah, la valeur ajoutée de Guillaume, François et Vianney, nos trois cofondateurs, c'est qu'ils ont réussi à créer une team qui vraiment, c'est une petite famille, quoi. On dit la Lem Family, et franchement, c'est pas du bullshit, quoi. C'est vraiment vrai, quoi. On a les mêmes valeurs et on s'entend très, très bien. Et au final, bah, nos clients, parfois, c'est presque nos potes, quoi. Presque même notre futur mari.
A contrario, j'aimerais que tu me décrives une situation plus compliquée, parce que même dans la Lem Family, j'imagine qu'il y a des hauts et des bas.
Ouais. Une situation compliquée. Bah, c'est par exemple là dernièrement donc Simon qui s'est lancé un défi de faire de l'outbound aux US. Donc c'est un gros défi quand même parce qu'on est sur un secteur US, donc un autre marché, même si on a déjà du marché inbound US, mais voilà, c'est un autre marché que le marché français parce qu'il avait tendance à plutôt travailler sur le marché français et en plus on est sur l'outbound alors que nous on fonctionne beaucoup en inbound. Donc voilà, un gros challenge. Et du coup, pour le délester un peu de choses qu'il a à faire, on a un de nos clients qui était donc déjà utilisateur de Lemlist, mais pour qui il a eu une croissance, donc il a embauché des nouveaux SDR qui allaient utiliser Lemlist, et donc il m'a demandé, Simon, de faire l'onboarding, de leur présenter l'outil et choses comme ça. Donc moi, j'ai pris le point avec plaisir. Et en plus, tu te dis, c'est pas comme s'ils étaient venus à moi, c'est-à-dire que là, je rends service à quelqu'un, donc tu te sens encore plus... impliqué, enfin tu vois, t'as envie que t'aies des bons retours parce que tu sais que les retours c'est pas à toi qu'on va les faire, c'est directement à Simon en l'occurrence. Et il s'avère que donc j'ai fait un onboarding et une des personnes était plus calée sur l'outil, m'a posé beaucoup de questions. J'ai demandé à plusieurs reprises si les personnes avaient des questions, ils m'ont dit que non. Et au final, quelques jours après, leur manager est revenu vers Simon et m'a mis en copie et en gros elle se plaignait de mon onboarding. Elle m'a dit que l'onboarding était, comment dire, que je les avais expédiés, qu'ils n'avaient rien compris et qu'ils ne savaient pas utiliser la plateforme. Et du coup, tu te dis, tu rends service à un de tes collègues, tu es censé lui faire gagner du temps, au final, tu as l'impression de lui en faire perdre. En plus, toi, tu perds en crédibilité parce que on te fait un mauvais retour. Du coup, au final, Simon, il peut baisser sa notation, entre guillemets, même si on ne se note pas les uns les autres, mais bon, il peut avoir une estime de moi et de mon travail un peu baissée. Du coup, la situation n'était pas évidente. Heureusement, tu vois que finalement, on a une grosse cohésion d'équipe. Simon m'a dit de reprendre l'onboarding. Il m'a pas dit genre « t'as pas géré, je m'en occupe ». Non, il m'a dit « reprends le point, c'est toi qui reprends le point ». Je leur aurais refait un onboarding. Et là, il y avait que les personnes qui n'avaient pas utilisé la plateforme. Il n'y avait pas la personne qui connaissait mieux l'outil. Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin parce qu'elle avait tout compris. Et au final, j'aurais refait un onboarding, je leur ai tout réexpliqué, j'ai répondu à leurs questions. Et puis en fin d'entretien, je leur ai dit, ça c'est pour moi personnellement. Qu'est-ce qui a fait que j'ai oublié de vous dire ou de vous demander la dernière fois que vous ayez aussi peu compris ce que j'ai expliqué? Donc voilà, après, ils m'ont fait leur retour, peu importe ce qu'ils ont dit. Mais de manière générale, je me dis, j'aimerais bien que la relation avec nos clients soit un peu plus adulte, tu vois. Dis-moi, j'ai pas compris, ou dis-moi, bah finalement l'outil, j'ai pas eu le temps de bien creuser dedans. Est-ce qu'on peut se refixer un point dans une semaine? Et moi, j'aurais forcément dit oui. Enfin, mais me dis pas, non, j'ai pas de questions, j'ai tout compris. Enfin, voilà. Du coup,
Ah, ça c'est le
assez
propre
difficile, ouais.
du métier de CSM, faut tout
Ouais.
le temps double-checker.
Ouais, du coup, si je dois apprendre quelque chose, c'est ouais, redemander, enfin, je sais pas. Et se méfier des gens qui ne posent pas de questions, finalement.
Ah ouais, c'est une super bonne remarque.
Parce qu'au final, celle qui avait posé le plus de questions, tu vois, elle avait pas besoin, elle avait tout compris.
Ouais, comme quoi, en effet. Bien checker, bien voir ça. Comment, selon toi, va évoluer le métier d'account manager dans les prochaines années?
Bah selon moi, pour moi déjà c'est tout frais. Donc moi j'ai l'impression d'arriver dans le customer success comme si ça avait toujours existé. Alors qu'en fait, de ce que je lis beaucoup, parce que je m'informe énormément sur bah, ce métier, parce que pour moi c'est tout nouveau. Et j'aime beaucoup apprendre des nouveaux process. Comme je te disais, j'ai une casquette process que j'aime beaucoup. Et donc j'ai l'impression que déjà ça c'est nouveau, de se dire que finalement on n'est pas juste là pour répondre à des tickets, mais on est bien là pour accompagner nos utilisateurs. Essayer de comprendre quels sont leurs besoins. Et alors ça, vraiment, la valeur ajoutée de l'AMList, et je pense que c'est l'avenir du customer success, c'est qu'il faut que un customer success expert ait utilisé sa plateforme, en fait, ou son produit. Enfin, je veux dire, il faut qu'il soit... Moi, par exemple, je pourrais pas conseiller mes utilisateurs si je savais pas comment envoyer une campagne ou si j'en avais jamais envoyé. Du coup, nous, en interne, on fait du networking avec la campagne. Enfin, tu vois, un sales, forcément, lui, s'il fait de l'outbound, il va utiliser énormément la plateforme. Moi, j'ai pas trop à faire d'outbound. Mais en soi, par contre, le networking, tu vois, c'est la valeur ajoutée de notre boulot, essayer de chercher sans cesse de nouvelles informations. Et là vient le côté très expert. Donc, je pense que ouais, c'est important qu'on ait une dimension globale, qu'on soit en interaction aussi bien avec le market, les devs et les sales, et qu'on soit considéré comme un pilier à part entière, parce que bah, c'est comme tout, quoi. On dit un bon dev, c'est ce qu'il faut, mais en même temps, un bon dev qui n'a pas un bon sales, et bah, son outil ne sert à rien. Inversement, si tu as un super sales mais que le produit suit pas, bah c'est pareil. Et bah une fois que tu as construit tout ça, que tu as réussi à signer ton contrat, si derrière il n'y a pas de service après-vente et qu'il n'y a pas de marketing pour leur donner énormément de contenu et d'inbound,
Panier percé.
bah voilà, là tu churn. Donc au final, ouais, c'est de redonner de la valeur ajoutée et de la vie, enfin une visibilité aussi importante que le sales. C'est pour ça que bah, chez Lemlist, depuis peu, il n'y a plus de quota sales. C'est tous les employés Lemlist à la fin de l'année sur le chiffre d'affaires de Lemlist sera repartagé à tous les employés de Lemlist, mais de manière en part égale. Peu importe que tu sois head of ou technical, enfin peu importe ton statut, tu es une entité, une personne, donc tu mérites, tu as autant donné ta pierre à l'édifice pour que Lemlist puisse grandir. Donc on aura tous le même chiffre à la fin de l'année de prime, quoi. Et donc ça, je trouve que ça donne de la valeur ajoutée à tous les services. Et pas de se dire, ah, c'est encore les sales qui vont réussir à monter le chiffre d'affaires, tu vois. Et ça, je trouve ça trop cool.
Ouais, et puis ça ne monte pas les services les uns contre les autres. Là, tu sais qu'il y a
Grave.
one team, one priority, quoi. Ah,
C'est
c'est
clair.
trop bien. Ok, je
C'est clair.
connaissais pas du tout ce système de variables communs. Enfin, oui, on l'a tous, si tu veux, mais c'est vrai que le fait que ce soit indexé sur le CA, ouais, c'est très intéressant. Bah, merci beaucoup, Julie. Je termine par ma question rituelle qui est quel titre de livre, de film ou encore de chanson décrirait le mieux selon toi ton quotidien et pourquoi?
Toi, tu me disais que tu avais pris contact avec moi parce que j'avais posté mon post sur qu'est-ce qui est pour moi le customer success et ma vie de tous les jours. Et j'ai eu aussi, bah, grâce au networking, donc prise de contact sur LinkedIn, j'ai une personne aussi qui m'a contactée et qui m'a recommandé un livre. Alors attends, du coup, donne-moi une seconde et je te donne tout de suite le titre et je viens de le commander. Et je pense que du coup, il va m'apporter beaucoup en termes de connaissances. Et je pense que tous ceux qui travaillent au Customer Success, il m'a dit que c'était la référence. Ça s'appelle Customer Success, How Initiative Companies Are Reducing Churn and Growing Recurring de Lincoln Murphy. Et donc voilà, c'est ma prochaine lecture et je pense que ça va m'aider beaucoup sur les optimisations que je vais pouvoir apporter à l'Aimlist. Donc je l'ai commandé, j'attends de le recevoir et voilà, je pense que ça va m'aider pour ma vie de CS experte.
Trop cool. Bah, merci beaucoup pour cette suggestion de lecture et merci beaucoup de nous avoir fait rentrer dans ton quotidien chez Lemlist. C'était très chouette. Merci pour ce partage et bonne continuation. Et puis, je croise les doigts pour ta confirmation, même si ça ne me fait aucun doute.
Je te remercie vraiment. Je réitère mon message du début. Je suis ultra touchée, ultra émue de cet échange. Je trouve ça trop, trop cool, tout ce qui se passe en si peu de temps. Je remercie vraiment toute l'équipe Lemlist et je te remercie toi, Darina, d'avoir créé ce podcast parce qu'au final, tu donnes beaucoup de visibilité au customer success et ça, c'est très, très cool, tout ce qui est account management. Donc, je te remercie. Je te souhaite de continuer et de ne jamais arrêter ce podcast parce que je trouve que le podcast, c'est une mine d'informations et d'apprentissage qui est folle. Donc, voilà, je te remercie à nouveau, Darina, et je te souhaite le meilleur.
À très vite. Salut.
À très vite. Ciao.